Chapitre 10. Ce chapitre s'ouvre sur le message d'un ange à Corneille, lui disant d'envoyer des hommes à Joppé et de faire venir Pierre. Cela ne suscite aucune difficulté. Corneille obéit immédiatement. Remarquons que l'ange ne fait pas un long discours à Corneille. Le message de la grâce ne peut être transmis correctement que par un homme qui, lui-même, est un objet de la grâce. Aussi fallait-il faire venir Pierre. Dieu n'avait pas été insensible aux prières et aux aumônes de Corneille. Elles exprimaient que son cœur recherchait sincèrement Dieu. Si, après avoir entendu l'Évangile, il avait ignoré son message et était retourné à ses prières et à ses aumônes, cela aurait été différent. Elle ne serait alors pas montée pour mémorial devant Dieu. La manière dont Dieu prépare Pierre par une extase nous est ensuite rapportée. Là, des difficultés surgissent, car Pierre est encore sous l'emprise de pensées judaïques et il faut qu'il en soit délivré. Les auditeurs étaient prêts, mais le prédicateur ne l'était pas encore. Nous lisons qu'il monta sur le toit pour prier. Il était donc dans l'attitude qui convenait pour recevoir les directives nécessaires. D'une part, il y a un homme exercé qui priait, et d'autre part, un serviteur qui priait. Et les résultats sont remarquables. La grande toile que Pierre voit descend d'un ciel ouvert. Elle renferme toutes les espèces de créatures, tant pures qu'impures. Et elle est de nouveau élevée au ciel. Pierre est invité à satisfaire sa faim en mangeant. Il aurait pu le faire en choisissant à cet effet un animal pur. Mais comme ces bêtes étaient toutes mélangées, Pierre refuse. Il lui est dit alors que Dieu peut purifier ce qui est impur, qu'il l'a fait, et que lui, Pierre, ne doit pas tenir pour impur ce que Dieu a purifié. Cela est répété 3 fois, pour que Pierre soit bien pénétré dans son esprit de la signification de cette scène. Nous pouvons voir dans cette vision une image appropriée de l'Évangile. Dispensé depuis un ciel ouvert, il embrasse une multitude, comportant beaucoup de gentils qui, du point de vue cérémoniel, étaient impurs, mais qui sont tous purifiés par grâce et finalement élevés au ciel. Pierre a d'abord des doutes quant à la signification de toute cette scène, car les anciens préjugés meurent lentement. Mais comme il est en perplexité à l'égard de cette vision, l'arrivée des messagers envoyés par Corneille vient clarifier la situation. L'Esprit lui dit distinctement d'aller avec ses hommes et d'apporter ainsi l'Évangile à ce Romain exercé. Le gentil impur doit être sauvé. Au chapitre 8, nous avons vu avec quelle précision Dieu avait conduit Philippe à se joindre au char de l'Éthiopien. Ici, nous voyons les serviteurs de Corneille arriver juste au bon moment pour confirmer à Pierre les instructions divines. La chose est de Dieu. Et Pierre est irrésistiblement poussé à agir. Arrivé à Césarée, il trouve tout prêt dans la maison de Corneille. Lui aussi était conscient que tout procédait de Dieu. Aussi ne doutait-il pas que Pierre viendrait, et il avait assemblé plusieurs personnes qui, comme lui, cherchaient Dieu. Le verset 25 nous révèle l'état d'esprit humble et soumis qui caractérisait Corneille. L'hommage qu'il rend est excessif. Ce n'était toutefois pas peu de chose pour le Romain hautain de se jeter aux pieds de l'humble pêcheur galiléen. Pierre se trouve maintenant en présence d'un grand nombre de gentils, et les premières paroles qu'il adresse à Corneille montrent qu'il a compris l'instruction reçue par la vision. La réponse de Corneille révèle la simplicité avec laquelle il avait reçu le message de l'ange et sa promptitude à obéir. Il avait accepté le doux reproche de Pierre, lui disant « Moi aussi je suis un homme ». Il savait toutefois que Dieu était à l'œuvre et que la réunion devait avoir lieu comme en sa présence. Par conséquent, il dit de lui-même et de ceux qu'il a rassemblés « Nous sommes tous présents devant Dieu, prêts à entendre de la bouche du prédicateur tout ce qui t'a été ordonné de Dieu. » Ils étaient disposés à entendre tout. Combien de personnes veulent bien entendre des paroles agréables et réconfortantes mais rejette les déclarations plus exerçantes de l'Évangile. En commençant son message, Pierre mentionne qu'il comprenait maintenant que Dieu agrée toute âme qui le recherche sincèrement, selon la lumière qu'elle possède, indépendamment de la nation à laquelle elle appartient. La grâce de Dieu allait désormais se déverser richement au-delà des frontières d'Israël, bien que la parole annoncée par Dieu, touchant Jésus-Christ personnellement présent au milieu des hommes, n'ait été envoyée qu'aux seuls enfants d'Israël. Mais cette parole avait été largement publiée à travers la Galilée et la Judée, de sorte que Corneille et ses amis, habitant ces contrées, la connaissaient bien. Tout ce qui concernait la vie et la mort de Jésus de Nazareth leur était familier. Ainsi, Pierre pouvait dire « Vous connaissez la parole ». Il y avait cependant des choses qu'il ne connaissait pas, et ce sont ces sujets d'une importance capitale qu'il va placer devant eux. La mort de Jésus avait été une manifestation publique, et tout le monde était au courant de ce qui s'était passé. Sa résurrection n'avait eu que peu de témoins, et, d'une manière générale, elle était niée avec l'appui des autorités religieuses, comme nous l'apprend Matthieu 28, versets 11 à 15. Aussi, Pierre annonce-t-il maintenant une nouvelle étonnante. Le Jésus qui avait été crucifié a été ressuscité d'entre les morts par une intervention de Dieu. Lui-même et les autres apôtres l'avaient vu, avaient mangé avec lui et avaient reçu le commandement de prêcher au peuple. Dans les versets 42 et 43, Pierre présente ce qu'il a été chargé d'annoncer. Ces deux versets nous donnent les deux sujets de sa prédication. Deux thèmes qui doivent avoir eu un grand retentissement chez ses auditeurs d'entre les gentils. Premièrement, le Jésus que les hommes ont crucifié a été établi de Dieu juge des vivants et des morts. Sa crucifixion a été perpétrée tant par les Juifs que par les gentils. Corneille devait en savoir les détails et connaître certaines personnes qui y avaient participé, si lui-même n'y avait pas joué un rôle. Il était au courant de la honte, du déshonneur et de l'échec apparent de cet homme. Or, le Jésus méprisé apparaîtra, le moment venu, comme le juge universel. Le destin de tous les hommes est entre ses mains. Quelle déclaration surprenante, propre à terroriser tous ses adversaires. Mais, en second lieu, avant que ce juge s'asseye sur le trône du jugement, tous les prophètes rendent témoignage que le pardon est offert en son nom. Ce pardon est à la portée de quiconque croit en lui. Le pardon au nom du juge. Que pourrait-il y avoir de plus décisif et de plus immuable? Le juge est devenu le garant des pécheurs, et ainsi celui qui croit en lui reçoit la rémission des péchés avant que se lève le jour de la grande comparution des vivants et des morts. Corneille et ses amis crurent. La foi était présente dans leur cœur avant même que le message leur ait été présenté. Dès qu'ils l'entendent, leur foi s'en saisit immédiatement et Dieu sanctionne ce fait en répandant aussitôt sur eux le don du Saint-Esprit. Leur foi a jailli comme un éclair et a été suivie tout de suite par le coup de tonnerre du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit était répandu sur ces croyants d'entre les gentils, comme il l'avait été au début sur les croyants d'entre les Juifs avec ensuite le signe des langues. Les deux cas étaient identiques. Aussi, les fidèles de la circoncision, qui étaient venus avec Pierre, n'eurent-ils plus aucun doute. Rien n'empêchait que ces gentils soient baptisés. Si Dieu les avait introduits par le baptême de l'Esprit dans le seul corps, les hommes ne pouvaient pas leur refuser l'entrée par le baptême d'eau parmi les croyants sur la terre. Il y a cette seule différence entre Acte 2 et notre chapitre, que là, les croyants durent d'abord se soumettre au baptême d'eau pour recevoir ensuite seulement la promesse de l'Esprit. Ils devaient rompre leur lien avec la masse rebelle de leur nation avant d'être bénis. Ici, Dieu répand d'abord l'Esprit, car s'il ne l'avait pas fait, les Juifs, avec leurs préjugés, auraient fait obstacle à leur baptême et à leur réception. Ainsi, Dieu les devance. En fait, tout ce chapitre nous montre que l'ouverture de la porte de la foi aux gentils procédait de Dieu pour l'accomplissement de son propos. Il nous indique également qu'aucune loi rigide ne saurait être posée quant à la réception de l'Esprit. Celle-ci résulte toujours de la foi, mais elle peut avoir lieu avec ou sans le baptême, avec ou sans l'imposition des mains des apôtres. Voir chapitre 19, verset 6.